territoire. Après les élections de 2011, quel bilan dressé de la gestion de la province orientale sur les plans politiques, sécuritaires et socio-économiques? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Et pour en parler, je reçois le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de la province orientale. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir Alain.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Médard Wabenga, porte-parole de l'UDPS Fédération de Kisangani. Monsieur Wabenga, bonsoir. Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir.
En province orientale, vous nous suivez sur 94.8 FM, exactement à Kisangani. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Après les élections de 2011, la province orientale a connu deux dirigeants à sa tête. Chacun d'eux avait présenté devant l'Assemblée provinciale un programme d'action très ambitieux. Quel bilan dressé durant ces trois ans de gestion de la chose publique en province orientale? Aliana Lipanagama pour les détails.
Le premier mandat de ces trois ans est celui de l'honorable Médard Aoutchei Assenga. Ce dernier avait conçu un programme axé sur les cinq chantiers arrêtés par le chef de l'État. Il s'est agi notamment de l'eau et l'électricité, santé, éducation, infrastructure et emploi. Des actions avaient été menées selon cette orientation. Néanmoins, le bilan était mitigé. Beaucoup de projets n'ont pas donné de résultats escomptés. C'est le cas des 10 écoles à construire dans chacun des 24 territoires. Médard Aoutchei a été également en 2011 l'objet d'une interpellation convertie à une motion de défiance par certains députés provinciaux pour un constat de contre-performance des recettes provinciales. Le gouverneur a été traduit à la Cour suprême de justice. À sa prise de pouvoir en janvier 2013, Jean Bamanissa Saïdi a présenté un programme axé sur plusieurs piliers, notamment la restauration de l'autorité de l'État, la remise à niveau des territoriaux et la réhabilitation des infrastructures. Après 15 mois d'action, certaines réalisations ont été visibles, du moins en ce qui concerne les routes réhabilitées à Kisangani et à Bunia dans l'Ituri. Les fonds de la rétrocession du Foner a été mis à profit. Ajouté à cela, l'assainissement des services des finances et la réorganisation de la Direction générale des recettes DGRPO. Aliana Alipanagama, Radio Kapi, Kisangani.
Merci Aliana Alipanagama, Monsieur le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi, ainsi qu'à tous. Je vous propose que pour cette première partie, nous puissions commencer par les aspects politiques et sécuritaires. Monsieur le gouverneur, quel bilan vous dressez de votre action? Ça fait un peu plus d'une année que vous êtes à la tête de la province orientale.
Oui, tout à fait. Merci pour cette initiative à laquelle je réponds avec joie. La province orientale, 503 000 km², près d'une quinzaine de milliers de kilomètres de routes, quatre districts très vastes. Et il est vrai que nous nous sommes focalisés que nous sommes arrivés sur la restauration de l'autorité de l'État et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance d'abord, cela est très important parce qu'effectivement nous avions senti qu'il fallait remettre l'administration en place, il fallait un nouvel esprit qui devait nous permettre de travailler avec tous les agents administratifs, des services déconcentrés, des services décentralisés, des services de sécurité, la police, l'armée et tous les autres services pour remettre justement en place cette autorité de l'État à tous les niveaux, non seulement du gouvernement provincial, mais aussi des entités locales pour que la machine administrative, que la province puisse vraiment fonctionner. Et nous nous sommes attelés à cela. Aujourd'hui, nous pensons que beaucoup, en tout cas, de nos concitoyens, de nos compatriotes en province orientale, dans ces différents services, savent qu'il faut rendre un travail de qualité pour avoir des résultats. Nous nous attelons aussi sur les agents administratifs dans le cadre de cette décentralisation pour leur rappeler quelles sont leurs attributions et lorsque nous parlons de décentralisation, nous mettons l'accent sur la capacité des uns des autres de pouvoir administrer correctement les différents services auxquels ils sont attachés. Et oui, des résultats commencent à se voir et nous pensons en tout cas qu'à ce niveau-là, tout doucement, en tout cas, nous avons imprégné un rythme de travail et nous en appelons, en tout cas, tous ces différents intervenants à s'y conformer.
Alors, Monsieur le Gouverneur, on sait que l'administration, c'est le tendon d'Achille en RDC, en Afrique subsaharienne. Et quand vous parlez de remettre l'administration en place concrètement en province orientale, qu'est-ce que ça veut dire?
N'oublions pas justement qu'on est dans une période transitionnelle de transfert de ces compétences, différentes compétences vers les provinces. Et nous avons cette administration et vous savez que dans les provinces, nous avons l'administration qui est chapeautée par un directeur de province ainsi que des chefs de division, chefs de bureau dans les différents secteurs. Et ces différents services sont mis à la disposition du gouvernement provincial qui doit pouvoir les utiliser et continuer dans le cadre du programme national qui a été tracé par le gouvernement central et celui mis aussi en place par le gouvernement provincial et entériné par l'Assemblée provinciale. Ce que nous recherchons justement, c'est cette collaboration entre les différents services pour que vraiment cette administration, vous savez, c'est à partir du quartier, à partir du groupement, du village. Nous remercions le gouvernement central qui a élaboré le guide de l'agent territorial et nous sommes en train de nous atteler à pouvoir le mettre à la disposition de ces différentes autorités, des entités territoriales décentralisées. Nous reposons vraiment là-dessus. Nous voulons aussi leur donner les capacités pour qu'ils puissent, suivant les règles de perception de différentes taxes et impôts, commencer à les appliquer pour qu'ils aient les moyens de leur politique aussi. Et différents autres renforcements de capacités qui doivent être faits tant au niveau de cette administration territoriale que de l'administration elle-même déconcentrée de notre pays.
Alors, l'administration sans les moyens, ça ne marche pas, Monsieur le Gouverneur. La rétrocession aux ETD, comment se passe-t-elle?
Écoutez, effectivement, nous avons 204 ETD et nous avons une rétrocession de fonctionnement qui est assez faible. Et nous la gérons actuellement ensemble avec les ETD. Nous avons d'ailleurs mis en place un cadre de collaboration. Une partie de ces rétrocessions sert au fonctionnement, donc 30%, et les 70 autres pourcents aux achats groupés. Et nous avons mis à leur disposition des motos pour pouvoir se déplacer, chacun des 204, des machines à briques pour préparer les constructions des infrastructures, du matériel de cantonnage maintenant nous venons de mettre à leur disposition en tout cas des équipements, des kits pour pouvoir suivre les informations sur les différentes chaînes de Kinshasa, RTNC qui passe sur le satellite et aussi votre radio. Donc parce que tout doit, en tout cas il doit avoir une certaine connaissance de ce qui se passe au niveau du pays.
Alors, l'aspect politique, Monsieur le Gouverneur, c'est aussi vos relations avec tous ces partis politiques au niveau de la province, les partis de l'opposition, les autres partis de la majorité. Comment ça se passe?
Écoutez, de ce point de vue-là, je crois que la situation politique est vraiment très stable, très calme au niveau de l'Assemblée, qui est la représentation donc de toutes les forces politiques de la province orientale. Il y a un bon travail de de collaboration qui se fait. Et de ce point de vue-là, je pense que nous n'avons pas beaucoup de problèmes, autant que nous pourrions en avoir peut-être ici dans la capitale où chacun s'exprime. On s'exprime aussi en province orientale, mais nous devons constater que c'est d'une façon concertée.
Médard Wabenga, vous êtes porte-parole de l'UDPS, Fédération de Kisangani. Vous venez de suivre le gouverneur Jean Bamanissa qui a parlé de son bilan sur le plan politique. C'est vrai que les aspects sécuritaires, on va les aborder tout à l'heure avec lui, mais vous pouvez déjà ramasser les aspects politiques et sécuritaires.
Merci beaucoup, mon frère, de m'avoir accordé cette chance. Je salue le gouverneur Bamanissa. Je salue aussi le professeur Mahindo, qui est mon professeur, bien sûr, m'avait enseigné à l'université. Mais tout de suite, je voudrais m'intéresser à ce que venait de dire le gouverneur, puisque soyons quand même sérieux dans ce que nous faisons, messieurs les journalistes. Quand le gouverneur dit que sur l'aspect politique, il y a la concertation, il y a l'attente, et que l'unique représentation de la vie politique ici en province orientale n'est qu'à l'Assemblée provinciale, ça vraiment c'est faux, et c'est méconnaître même la vie politique et de l'univers politique congolais. Nous sommes de l'UDPS, et nous sommes de l'opposition, et nous existons, nous fonctionnons, et nous sommes là pour avoir un mot à dire sur tout ce qui se passe dans la province. Sur le plan politique, il connaît lui-même comment nous sommes insécurisés ici dans la ville de Kisangani. Notre permanence a été spoliée, et il y a des policiers qui ont été implantés là-bas, les gouverneurs connaissent ça, et nous-mêmes nous avions été arrêtés, moi-même, mon président fédéral, Sylvain Liol, et mon collègue Bovike Bondo, nous avons passé 2 mois en prison ici, à Kisangani, avant d'être acquittés par la justice. Et les policiers ont occupé notre permanence, ils ont brisé les cadenas, ils ont pillé tout ce qui est dedans comme meubles, comme documents, comme argent, et jusqu'à présent, les dossiers sont à la justice pour notre réhabilitation en droit et en fait. Mais malheureusement, au niveau du parquet général, on traîne les pieds, on ne sait pas pourquoi. On dit tantôt la plainte est perdue, il faut mettre encore une autre plainte en jeu. Alors voilà.
Alors,
comment...
Alors cela s'est passé quand, Médard Wabenga?
Avant, alors qu'une partie de la classe politique est en difficulté. Et il connaît ça. Deuxièmement, au niveau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur sait très bien qu'il y a des motions qui sont en souffrance aujourd'hui. Entre autres, la motion de l'honorable Eri. Il connaît comment ça s'est terminé à l'Assemblée provinciale. On ne veut même pas programmer cette motion en discussion. Pourquoi? Puisque on demande qu'on puisse faire des comptes sur la gestion de la province orientale au niveau des ministères. Aucun ministre ne veut venir se justifier. Il connaît ça, monsieur le gouverneur. Il ne peut pas dire que ça va sur ce plan-là. Il a parlé des ETD. Il sait que toutes les ETD de la province orientale sont en difficulté, sont en sous-développement exprimé à travers leur matériel de travail. Il ne peut pas dire qu'il distribue des motos aux administrateurs du territoire et qu'il a terminé tout ce qu'il devait faire pour le travail. Non, il faut éviter des publicités quand on fait un travail, surtout politique et administratif. Les ETD sont tellement enclavés. Il n'y a pas de route de dessertes agricoles, il n'y a pas de route qui les relie au niveau de la province avec les routes principales. Peut-être nous allons parler des infrastructures aussi, mais il devrait savoir qu'il y a un grand besoin au niveau des ETD et qui n'est pas assuré. Il a parlé de la rétrocession, 30%, il faut gérer en commun accord, ce qui revient aux ETD, ce n'est pas comme ça. Ce sont des responsables, il faut leur donner ce qu'il faut et qu'ils gèrent d'eux-mêmes ce qui revient à leur entité territoriale décentralisée. Si le plan politique et administratif, je ne pense pas que ça puisse réussir. Non. Il faut faire beaucoup d'efforts. Et sur ces efforts-là, il faut les faire en âme et conscience, en toute indépendance d'esprit.
Médard Wabenga, donc, vous voulez dire que sur le plan politique, les partis, notamment de l'opposition, sont brimés et martyrisés en province orientale.
Ça, c'est très bien remarqué. C'est ce que nous vivons ici. Je venais de vous dire que nous venons de la prison. Je viens de passer 2 mois en prison avec mon président et mon collègue. Et il sait pourquoi. Il connaît celui qui a placé les policiers à la permanence de l'UDPS. Il connaît comment on a pillé la permanence de l'UDPS. Nous avons demandé à la justice, la justice a nié qu'elle n'a pas placé des policiers à la permanence, puisqu'il y a une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui interdit à ce que la permanence des partis soit attaquée ni occupée par la police. Sans cause. Ni la justice ne connaît pas, puisque nous avons demandé partout. Et quand nous avons été acquittés par cette justice, nous avons demandé notre réhabilitation. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas réhabilités. Il connaît ça, monsieur le gouverneur. Alors, il s'est déjà intéressé à cette question. L'UDP, ce n'est pas un parti politique qui œuvre à la province orientale. Il faut être à l'Assemblée provinciale pour être protégé par les pouvoirs. Non. À mon avis, il faudrait protéger tous les citoyens sur le même pied d'égalité, puisque nous sommes en même temps les contribuables de la vie socio-économique de cette province.
Alors, Médard Wabenga, le gouverneur a dit qu'en ce qui concerne les ETD, les moyens sont minimes, ils sont maigres, et la plus belle femme du monde, dit-on, ne peut donner que ce qu'elle a.
Et c'est trop dangereux, puisque j'ai vu au niveau de son budget de cette année 2014. Il a parlé de beaucoup d'équipements qu'il fallait acheter pour les réaménagements des infrastructures. Et ces infrastructures sont où? C'est au niveau des ETD qu'il y en a, ce n'est pas seulement dans la ville de Kisangani. Et si on peut les équiper aussi de ces mêmes infrastructures, ils peuvent fournir et produire un bon travail pour réaménager les routes des fêtes agricoles et les routes qui les relient à la province. Ce n'est pas seulement au niveau des stylos, du papier qu'on doit se limiter pour parler des équipements. Il faut les acheter et il faut les disponibiliser aux ETD. Ce sont des gens qui doivent aussi travailler, ils ne peuvent pas croiser les bras et une seule personne travaille pour toute la province. Non, il faut décentraliser les équipements et il faut aussi décentraliser l'argent.
Alors, Médard Wabenga, en ce qui concerne les relations entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, vous qui êtes sur place à Kisangani, quel est le constat que vous avez fait? Le contrôle parlementaire, par exemple, s'exerce-t-il convenablement?
Je venais de vous donner un exemple. Il y a la motion de l'honorable Eri qui est en difficulté jusqu'à présent. Si elle-même peut déclarer que les rapports sont au top, mais nous observons qu'ils sont toujours en tiraillement. Quand il s'agit d'une motion qui doit amener le gouvernement provincial à réajuster le tir, là, on recourt à des pratiques que nous connaissons depuis très longtemps dans ces pays. Et souvent, la motion se retire avec toute la turpitude qui accompagne cela. Et personne ne parle, il n'y a pas la honte pour retirer des signatures. C'est dans notre province où on voit des députés retirer leurs signatures. Et c'est dangereux. On ne peut pas dire que la vie politique à l'Assemblée provinciale est vraiment bonne. Non.
Et donc, est-ce que vous n'avez pas peur d'affirmer que l'Assemblée provinciale est inféodée au gouvernement provincial?
Et même ils savent ce qu'ils sont en train de produire comme travail, et surtout la population qui les avait mandatés connaît déjà quel travail ils sont en train de produire. Est-ce que c'est en faveur du public, c'est en faveur de la population, ou c'est en leur faveur?
Merci Médard Wabenga, je vous redonne la parole tout à l'heure, tout en signalant que lorsque nous parlons des ETD, il s'agit des entités territoriales décentralisées. Professeur Alphonse Maïndo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, vous avez suivi le gouverneur Jean Bamanissa ainsi que Médard Wabenga sur le plan politique et sécuritaire. Quel bilan vous pouvez dresser de la gestion de la province orientale?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord saluer le gouverneur Jean Bamanissa ainsi que le porte-parole de l'UDPS que je connais très bien. Alors, je pense que les bilans de ces années de gouvernance en province orientale est plutôt mitigé, si on veut dire, en termes de gouvernance politique et sur le plan de la sécurité également. Vous, quand la nouvelle autorité est arrivée au pouvoir, elle a axé sa politique après dans son discours inaugural sur un certain nombre de points et sur lesquels on pourrait les juger, entre autres la refondation de l'administration publique, la sécurité et tout ça. Alors maintenant, si on regarde, prenons la gouvernance. Certes, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une certaine amélioration de la gouvernance parce qu'on a vu quelques actes qui ont été posés, notamment il y a une commission qui a été créée pour gérer la dette publique de la province et les projets de la province. Il y a une table ronde économique qui a été convoquée pour essayer de voir comment on peut améliorer le climat des affaires et le développement de la province. Il y a eu aussi d'autres efforts. J'ai appris qu'on a créé également une commission pour la lutte anticorruption. Et je vois qu'il y a eu un effort aussi pour faire un guichet unique pour canaliser les recettes fiscales provinciales. Mais ceci dit, on a quand même aussi d'autres questions qu'on pourrait se poser par rapport à cette gouvernance. Parce que lorsqu'on parle de gouvernance, ça signifie qu'on doit faire une transparence également dans la gestion. Et là, sur ce point-là, on peut se poser des questions. Comme tout à l'heure, donc quand on parle avec certains députés, il y a des difficultés pour les députés d'interpeller les membres du gouvernement provincial. Il y a donc plusieurs actions qui sont menées pour empêcher, si vous voulez, ce contrôle parlementaire de s'exercer de manière équitable ou demander des vrais comptes au gouvernement. Alors, quand on parle de transparence, je vois par exemple aussi, en ce qui concerne un geste fort qui aurait pu être mené en termes de transparence, ce serait par exemple d'aménager la résidence officielle des autorités. Je pense à la résidence du gouverneur qui est abandonnée, livrée à elle-même. au lieu de louer des résidences privées qui coûtent cher à la province, on aurait pu économiser l'argent, parce qu'il y a des édifices qui sont prévus pour ça. C'est ça qu'on appelle une bonne gouvernance, une transparence. Voyez-vous. Et aussi, si vous voulez, il y a une continuité de l'action publique. Si vous venez, vous arrivez, vous trouvez qu'il y a un gouvernement provincial qui avait été qui avait commencé à construire un hôtel du gouvernement. Il ne faut pas abandonner ce projet. Il faut continuer pour l'achever. Voyez-vous, il y a des indications qui montrent effectivement qu'on a là un certain nombre de problèmes par rapport à la gouvernance. Et voyez-vous, il y a un dicton qu'on entend souvent ces jours-ci en ville ici à Kisangani, c'est que on dit que on est passé d'un gouverneur à Talakat, donc qui distribue mais qui ne regarde pas, à un gouverneur à Talaka à Kabakate. Voilà, donc qui regarde mais qui ne distribue pas, qui ne repartit pas équitablement la ressource au niveau de différentes entités de la province, au niveau des différents citoyens qui forment la province. On a là quelques soucis, si vous voulez, par rapport à la gouvernance. On pourrait aussi aller plus loin. Tout à l'heure, en écoutant le gouverneur, il a lui-même confirmé un peu ce qui a toujours été ma crainte, c'est de voir que les entités territoriales décentralisées sont un peu traitées de manière un peu paternaliste. Les entités rentrent une rétrocession, il faut donner à ces gens leur rétrocession pour qu'elles décident elles-mêmes de ce qu'elles doivent faire comme affectation. Elles doivent avoir des budgets et des plans d'aménagement de chaque territoire comme la province doit avoir aussi. C'est d'ailleurs ce qui ressort quand on regarde l'article 204 de la Constitution qui rappelle les compétences propres des entités, notamment de la province.
Professeur Maïno,
un plan d'aménagement. Donc là, on n'a pas ces plans d'aménagement. On navigue un peu comme ça. On essaie de faire quelques actions d'éclat qui marquent. On salue bien ce genre de choses, mais il faut aller plus loin.
Alors, voilà. Professeur, s'il faudrait aborder le volet sécuritaire, qu'est-ce que vous pourrez dire? On sait que la province orientale est notamment écumée par plusieurs groupes armés, plusieurs milices. On a les Mbororo, quelques résidus des LRA. Il y a les hommes de Morgan qui font encore un peu rage en Ituri. Professeur, sur le plan sécuritaire, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Alors, sur le plan sécuritaire, il faut d'abord rappeler qu'en ce qui concerne la sécurité et la défense du territoire, c'est la défense territoriale, c'est d'abord un domaine de compétence exclusive du gouvernement central. Et par contre, ce qui concerne la sûreté intérieure, c'est un domaine d'un territoire de compétence concurrente entre la province et l'entité, disons le gouvernement central. Sur ce plan-là, on peut constater qu'il y a eu quelques efforts, quelques améliorations qu'il faudrait quand même saluer ici. On a neutralisé un des chefs qui écumait les territoires de Mambasa, qui est passé célèbre parce qu'il a saccagé la réserve des poules ou de la RFO
Là vous parlez de Morgan.
Oui, de Morgan, je parle de Morgan qui a été neutralisé physiquement. Bon, on peut toujours discuter autour de ce qu'on peut, comment on pourrait qualifier cette neutralisation, un assassinat ou une bavure, mais il y a quand même un chef qui a été neutralisé. Mais on pourrait aussi donner mais en même temps, cette neutralisation pose un problème. C'est parce que ça empêche les gens qui ont voulu rendre les armes de revenir parce qu'ils s'inquiètent. Pour dire, si nous sortons, ce qui va nous arriver, ça pourrait être ce qui est arrivé à Morgan.
Professeur.
C'est pour ça qu'on a vu des expéditions punitives récemment, notamment d'un certain Manou qui essaie de punir les populations qui sont victimes pour ce qu'ils n'ont pas commis comme faute.
Professeur, je vous redonne la parole tout à l'heure, parce que vous avez presque le même temps de parole. Monsieur le gouverneur, vous avez suivi des observations de Médard Wabenga, du professeur Maïno. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Très rapidement, à Monsieur Médard Wabenga et au professeur Maïno. Écoutez, en tout cas, il n'y a pas une crise politique en province orientale. S'il y a un problème, comme le dit Monsieur Wabenga, c'est peut-être un problème foncier qui devrait trouver des solutions, mais ce n'est pas un problème politique envers son parti.
Mais à part ça, le professeur Maïn doit quand même dire qu'il y avait des difficultés de contrôler l'action du gouvernement.
Pas que je sache, parce que en tout cas, d'État, je communique personnellement quand il le faut, et les membres du gouvernement aussi sont appelés à le faire. Nous avons effectivement des questions orales avec débat. J'ai eu encore un rapport, je suis à Kinshasa effectivement, mais je sais que hier, aujourd'hui, il y en a eu, et cela se passe bien, et il y en a énormément. Lorsque vous faites le bilan de toutes les questions orales avec débat ou interpellations qui sont faites, il y en a énormément beaucoup, et cela se passe très bien. Je crois que c'est les députés ont tout le droit de faire ces contrôles, mais nous sommes aussi des anciens de l'Assemblée. Nous savons vers quoi nous devons aller lorsque nous faisons une interpellation. C'est pour aller avoir de la vérité sur certaines questions. Et nous encourageons, en tout cas, c'est que le gouvernement provincial puisse rendre compte, parce que nous voulons cette transparence. Nous sommes vraiment, nous serions très étonnés nous-mêmes d'apprendre que nous fouillons cette transparence. Je l'avais jamais entendu. Et écoutez, effectivement, nous sommes en train de faire un effort pour que les structures différentes de la province orientale puissent fonctionner au niveau de la sécurité. Vous avez abordé le problème de la sécurité, mais il est clair que nous avons énormément, le chantier de la province orientale est énorme. Nous sommes en train de nous battre pour que toute cette administration et qui compte donc les différents services puissent être fonctionnels et transparents et au service de la population. Et écoutez, je voudrais juste dire au professeur que je crois que la petite comparaison qu'il a fait pour ne pas donner à Kabakaté, mais écoutez, moi...
Là, je parlais de la non-répartition équitable des ressources au niveau de la province.
Non, les ressources sont bien reparties, mais les peu de ressources, parce que les ressources que nous avons, sachez que ce sont les mêmes ressources que le gouvernement ancien avait, et tout comme les ETD, parce que depuis que nous sommes arrivés, les ETD reçoivent quelque chose, et leur comptabilité tenue d'ailleurs au niveau de la Banque centrale, et nous devons dire aussi que les autres ressources sont allouées en tout cas aux travaux, c'est les résultats aujourd'hui qu'on peut constater dans toute la province, le peu de ressources vont directement en tout cas aux choses essentielles et pas à une distribution gratuite. Vous avez parlé des anciens cabinets, etc. Mais je pense que nous faisons un effort nous-mêmes pour dépenser moins, mais pour que cela puisse aller vers l'essentiel, vers la population.
Alors, monsieur le gouverneur, en ce qui concerne la sécurité, certains de vos détracteurs vous accusent d'être plutôt de vous concentrer sur la bonne gouvernance et le reste, mais la sécurité, ce n'est pas vraiment votre affaire.
Non, pas du tout, parce que, écoutez, on a fait un gros effort. Je dois vous dire, l'année dernière, quand vous regardez l'année d'avant, les bilans, par exemple, dans l'Ituri, qui était toujours une zone chaude, nous avons réussi à mettre en place un système qui puissent faire des patrouilles, des rondes dans les zones chaudes. Aujourd'hui, la ville de Bounia, c'est vrai qu'elle est toujours un peu insécurisée, mais en tout cas, nous avons réussi à diminuer la criminalité à Chomia, Kasseni, Djougou, Haru, etc. Vers Ouachia aussi, où ça chauffait, il y a toujours de petits problèmes qui malheureusement causent des gros d'insécurité corporelle aux citoyens, même dans la ville de Kisangani. Mais nous avons mis, en tout cas, beaucoup de moyens aussi à acheter des véhicules pour le compte de la police dans tous ces endroits dont nous parlons.
Merci. Quelques habitants de la province orientale ont aussi dressé leur bilan. On les écoute au micro d'Aliana Ali Panagama.
Si nous prenons la période là de 2011 jusqu'à 2013, sur le plan politique, il y avait aussi des crises. Il y avait des crises, ça il faut reconnaître. Il y a eu des histoires dans l'Assemblée, des histoires dans les gouvernorats. Presque dans toutes les institutions, ça ne tenait pas. Mais à partir d'un certain moment là, jusqu'à nos jours, il y a un peu de changement. Les institutions sont stables. Vraiment, nous félicitons les dirigeants actuels.
On se raconte que la politique ne fait pas son rôle comme nous on l'attend. On sent qu'il y a des vices qui se sont institués, la corruption, le clientélisme, la géopolitique, tout ça fait à ce que la province ne marche pas comme il se doit.
Les gens qu'on avait élus, ils ne sont pas toujours en contact avec la base, qui ne rendent pas compte à la base, à ceux qui les avaient élus.
Pour le moment, la situation est calmée. L'Assemblée et les gouvernorats sont en commun accord.
Sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup à reprocher parce que on se rend compte que des gens sont tués même à travers la ville. Que ce soit pour le déplacement à l'intérieur de la province, il n'y a pas de mesures sécuritaires qui sont mises en place.
Et nous avons des cas de poches de guerre, des poches de résistance partout. Je ne sais pas si au niveau de notre gestionnaire militaire de la province, il arrive à faire quelque chose. C'est vrai, on apprend qu'il y a telle poche qui a été démantelée, mais ça revient depuis 2013-2014, il y a beaucoup plus d'insécurité dans la ville.
Ces derniers temps, en tout cas la sécurité, il n'y a pas moyen. Il y a des couloirs par-ci, par-là, mais non loin même de la police.
Il faut dire que depuis une dizaine d'années, le social de la population n'est pas stable, elle est même déplorable. On se pose la question de savoir si réellement nos autorités, dans leur vision des choses, ont laissé une place au social.
Le pouvoir d'achat de la population est trop faible. C'est comme si l'argent circule dans les poches des avertis.
Les sociaux, il y a quand même un avancement, parce qu'il y a les routes qui sont en très bon état, et ça nous permet maintenant que la vie soit ravitaillée.
Mais Darwa Benga, en ce qui concerne la sécurité, vous venez de suivre certains habitants de la province orientale qui viennent de s'exprimer, d'autres qui disent, qui pensent que les choses se sont quand même améliorées, d'autres qui pensent que ça reste un véritable défi. Quel est votre point de vue sur cet aspect?
Exactement, la question sécuritaire reste un défi à relever. Malgré la prestation du gouverneur de la province, il faut savoir que la ville de Kisangani plonge toujours dans l'insécurité. Vous savez que les tueries continuent dans la ville de Kisangani. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs au niveau des micro-baladaires. Du côté de chez nous, là, à Kabondo, les hôtels sont toujours pillés la nuit. Et les pillards viennent à véhicule, pas à pied, bien armés. Et on dévalise tout le monde qui est dans l'hôtel. Et on a connu ça dans l'hôtel de 4e avenue, Kabondo. 7e bis, Kabondo, a été pillé, cet hôtel-là. Il y a un chef de travaux de la faculté des sciences qui a été tué dans son domicile propre. Toujours là, du côté de Kabondo artisanal. À la Chope, on venait d'enterrer avant-hier un enfant qui a été tué par balle, puisqu'on recherchait son père qui n'a pas été retrouvé. Voilà comment l'insécurité plane toujours ici dans la ville de Kisangani. Il faut fournir un effort. On ne peut pas se limiter seulement à se rassurer que voilà, c'est fini, nous avons sécurisé la ville. Nous avons... Ce n'est pas seulement la sécurité des autorités qui compte, la sécurité de toute la population, que ce soit ceux qui sont au centre-ville, que ce soit ceux qui sont à la périphérie, puisque ceux qui sont à la périphérie de la ville, comme s'ils sont laissés pour leur compte. Or, ça, ce n'est pas sécurisé la population. Deuxièmement, le gouverneur a parlé qu'il y a des problèmes qui sont particuliers au niveau des partis politiques. Non, non, non. Notre affaire de la permanence des partis politiques n'est pas privée. Ça, ça relève de la sécurité aussi nationale. Et le gouverneur, en tant que chef de la province, il doit sécuriser tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Même
mais
la permanence de l'UDPS. Il a placé la police à la permanence du parti. Il faut qu'il dise ça.
Mais
le parti a nié qu'il n'a pas placé la police là-bas. Et pourquoi alors on doit sécuriser cela, les acteurs politiques de cette trempe-là?
Mais Darwa Benga.
Ils vont aussi s'occuper de ça. Oui, je vous écoute.
Voilà, je vous propose que nous puissions évoluer parce que le temps ne nous attend pas. Sur le plan socio-économique, vous, dans votre première intervention, vous sembliez déjà émettre quelques réserves sur les avancées dans ce domaine-là.
Oui, puisque au niveau budgétaire, quand j'ai lu ce tableau qui nous a présenté au budget, la santé de la population de la province orientale est en dernière instance. Seulement 0,52% du budget de la province a été réservé pour la santé, pour l'éducation, pour l'agriculture, pour les sports. Finalement, je ne sais pas comment on peut améliorer ce secteur qui pourtant est vital pour le développement de la population, le développement de la vie humaine elle-même. On ne peut pas remettre ça vraiment au rabais, 0,52% du budget de la province pour la santé et l'éducation. Comment on formera ces enfants? Il faut tout laisser au niveau du gouvernement central? Je ne pense pas. Il faut améliorer ce qu'on prévoit pour éduquer les fils de la province orientale. Il faut aussi améliorer ce que l'on prévoit pour la santé de la population. Vous savez que quand on part dans des hôpitaux ici chez nous à Kisangani et ailleurs, les gens sont incapables de se procurer même un comprimé, puisque ça coûte extrêmement cher. Or, c'est le produit qui coûte le moins cher au monde, les produits pharmaceutiques. Pourquoi le gouvernement provincial ne peut pas se pencher sur cette question-là? Au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement, on doit s'occuper aussi de certaines choses. On nous disait qu'on pourrait construire des écoles dans des territoires. Je ne sais pas s'il peut dire pour le budget de l'année passée, on a construit combien? Pour cette année, on a déjà commencé à construire combien? Et on construira combien d'écoles par territoire?
Alors,
là, je ne sais pas.
Mais Darwa Benga, avant que je ne donne la parole au professeur Alphonse Maindo, un mot sur l'accès à l'eau et à l'électricité très rapidement.
L'accès à l'eau et à l'électricité se limite pratiquement et en grande partie pour la ville de Kisangani, mais c'est aussi pénible. Vous savez qu'on a multiplié des taxes telles que, au niveau de l'eau, on a doublé les factures d'eau. Au niveau de l'électricité, je vous informe qu'une partie de la population de la commune Tchopo a remis toutes les factures de la SNEL, qu'elle ne va pas payer ça, puisqu'on n'a pas consommé l'énergie électrique, mais on emporte des factures exorbitantes, et tous les habitants de ce quartier-là ont dit tout simplement que toutes les factures rentrent à la SNEL, et merci. Jusqu'à présent, ce conflit est entre la SNEL et les habitants d'une partie de la commune Tchopo.
Merci.
C'est-à-dire, on ne s'occupe pas de ce secteur aussi.
Merci Médard Wabenga. Professeur Alphonse Maindo, sur le plan socio-économique, vous venez de suivre toutes les doléances énumérées par Médard Wabenga. Quelle est votre analyse?
Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a, bon, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais il y a aussi quelques exagérations que je comprends. Mais quand on regarde, il y a quand même des efforts qui ont été faits aussi sur le plan social. Hein. Et même si tout à l'heure le gouverneur disait essayer de reprendre un peu ce que je disais en essayant de contredire, c'est une réalité qu'on entend, y compris parmi les membres de cabinet ministériel ou des services de protocole, qui disaient qu'on a là une autorité qui regarde mais qui ne redistribue pas. Attends la cacabagaté, alors qu'avant on avait une autorité qui distribuait et qui ne regardait pas.
Alors, professeur
Maïdou,
excusez-moi, juste une précision. Distribuer, qu'est-ce que ça veut dire? Donner l'argent à tout bout de champ, à n'importe qui, ou les canaliser dans des projets concrets qui peuvent porter des fruits et profiter à tous?
Alors ici, il s'agit quand on voit ce que les gens disent pour eux, il s'agit de rémunérer un certain nombre de gens, et aussi des groupes, en fait, les clientélismes politiques. Il faut pas mâcher les mots. Ce qui a fonctionné pendant longtemps, c'était les clientélismes politiques qui a permis à un certain nombre de barons de s'asseoir et de consolider leur pouvoir. Et ça a été cassé. Mais au profit d'une autre catégorie. Voyez-vous, ce que les gens disent, c'est que ça, on a changé en fait l'assiette, si on veut dire la base de ceux qui bénéficiaient de cette manne provinciale, c'est rétréci au profit d'une poignée des gens. Alors, donc, au lieu que ça s'étende. Mais en même temps, on voit quand même qu'il y a des choses qui se font en province. On a vu quand même il y a un début de réhabilitation des infrastructures routières en ville. On voit quelques axes routiers qui sont réhabilités, même asphaltés, même si on peut discuter un peu sur le choix de ces actes-là, de ces axes-là qui ont été réhabilités, on peut discuter sur le choix, parce qu'on aurait pu choisir d'autres axes plus prioritaires pour l'intérêt urbain. Alors, mais il y a des efforts qui ont été faits. Ceci dit, on peut aussi s'interroger par rapport au social en question. Il y a un des secteurs clés qui relève maintenant de la compétence provinciale, c'est l'enseignement primaire, maternel, secondaire et professionnel et l'enseignement spécial. Et qu'est-ce que le gouvernement prévoit par rapport à ça? Il y a une question qui taraude et dont les parents se plaignent tout le temps, c'est la question de la prime des enseignants. Qu'a-t-on fait pour essayer de résoudre ces problèmes-là qui font souffrir pas mal de familles qui n'arrivent pas à payer ça? Parce qu'il y a la gratuité qui est programmée comme principe. Et c'est l'éducation primaire, elle est donc de la compétence exclusive de la province. Alors, on pourrait aussi voir d'autres aspects. Nous sommes dans une période de reconstruction post-conflit. Il y a des choses, il y a des mesures incitatives sur le plan économique et social qui devraient être prises pour encourager les gens à investir, pour encourager les gens à reconstruire la ville. Et ces mesures, les pays, ces mesures-là ne sont pas prises, on ne les voit pas, notamment en termes de facilitation de produits de construction, comme les produits de base pour la construction, les ciments, les barres de fer, toutes ces choses-là, elles sont taxées, même chères, voyez-vous, et on Merci. Augmente les affaires. Les petits commerces frontaliers, ça relève de la compétence de la province. On pourrait avoir là des mesures d'allègement pour permettre l'import export au niveau de notre territoire, de la province orientale qui a frontière avec trois pays. Ça Merci faciliterait professeur. L'approvisionnement de la province et en matériaux de construction et autres. Mais il n'y a pas d'incitation. Voilà. Quand on peut regarder aussi en termes, il y a plusieurs, les bâtiments sont en train de connaître une croissance professeur. Exceptionnelle.
Professeur, souffrez que je vous arrête, il nous reste moins de 6 minutes pour terminer l'émission. Nous allons donner l'occasion à M. le gouverneur de répondre. M. le gouverneur, sur le plan socio-économique, on parle de la multiplicité des taxes, on parle de des routes qu'on commence à peine à voir. Qu'est-ce que vous pouvez répondre?
Écoutez, effectivement, la province orientale, 14 millions d'habitants, et elle a souffert beaucoup parce enclavée. Mais justement, je voudrais vraiment avoir l'occasion de parler encore une fois avec le professeur Maindo, parce que je voudrais le convaincre que si on ne donne plus, cela n'a pas changé demain, c'est tout simplement reparti vers ce qu'il constate aujourd'hui en train de s'exécuter. Donc c'est, les moyens n'ont pas changé, ils sont allés effectivement vers des réalisations. Et il y a des problèmes de sécurité, je voudrais revenir là-dessus, on n'est pas... Je ne dois pas vous dire que nous sommes satisfaits. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité auxquels nous faisons face. Et c'est une question qui doit concerner tous les citoyens parce que nous devons tous nous mettre ensemble pour contrer ces ennemis du peuple.
L'accès à l'eau, à l'électricité, monsieur le gouverneur?
L'accès à l'eau, à l'électricité, la ville de Kisangani a eu cette chance d'avoir une turbine en plus l'année dernière, mais la vétusté des câbles électriques fait défaut, donc est un gros problème. Nous nous attelons à les résoudre et nous nous attelons à ce que la SNEL puisse avoir les moyens de pouvoir remplacer ces câbles tout en donnant donc un travail, un service plutôt de qualité.
Alors, monsieur le gouverneur, souffrez, il nous reste moins de 4 minutes, ce n'est pas en 45 minutes qu'on peut faire le bilan de toute une province. En guise de conclusion, il y a les habitants de la province orientale qui vous suivent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer dans les jours prochains?
Écoutez, c'est d'abord cette cohésion que nous voulons au niveau de la province orientale. Il n'y a rien qui pourrait mieux être que celui de nous focaliser tous ensemble vers les mêmes objectifs, celle par exemple de faire de la province vraiment une partie de la République où la paix règne véritablement, comme nous demande le chef de l'État. Et tous les mécanismes sont mis en route aujourd'hui à travers le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo. Et nous sommes en train de faire un effort d'accompagnement pour que ces questions résiduelles puissent s'arrêter au niveau de la sécurité.
Et donc, ils doivent espérer par rapport à leur avenir.
Ah oui, écoutez, la province orientale est résolument tournée vers le développement, merci, vers l'émergence que nous attendons tous dans les années qui viennent.
Merci, monsieur le gouverneur. Médard Wabenga, en guise de conclusion, vous avez le gouverneur dans cette émission. Quel conseil pouvez-vous lui donner pour améliorer la gestion de la province?
Le premier conseil, qu'il puisse, c'est respecter les ATD, les entités territoriales décentralisées. Il faut les restituer ce qui revient à eux. Deuxième conseil, il faut sécuriser tout le monde. Il n'y a pas que les partis politiques de son obédience qui doivent être sécurisés. Il faut sécuriser tout celui qui œuvre politiquement en province orientale. Il faut songer à la vie sociale de la population. J'ai parlé du secteur sanitaire, il faut songer à la santé de la population de la province orientale. On ne peut pas les abandonner comme ça. Les hôpitaux coûtent extrêmement cher actuellement et les gens meurent en abondance dans des hôpitaux par manque de moyens et par manque surtout des soins de santé et des soins pharmaceutiques. Troisièmement, il faut apaiser la population à travers la taxation. Au niveau du marché central, vous avez vu, bon, vous n'étiez pas ici, les femmes se sont soulevées puisqu'on a doublé les taxes que les femmes devraient payer au marché et il y a eu soulèvement. Pendant une semaine, on n'a pas travaillé convenablement au marché central. On ne peut pas surtaxer une population qui croupit dans la misère. Il faut adapter votre système de taxation par rapport à la vie et aux moyens de vivre de cette population. Et pour terminer, il faudrait qu'on puisse nous éclaircir sur les questions des achats que la province a prévus au niveau de son budget. Acheter l'autokila, la sucrerie de l'autokila. Est-ce que c'est pour les comptes de la province ou des particuliers? On parle qu'on va acheter Côte d'Or. Est-ce que c'est pour les comptes de la province ou bien au lendemain on suivra que non, ça n'appartenait plus à la province, c'est pour les particuliers.
Merci.
Alors tout ça, on a dit on va acheter toutes les plantations abandonnées. Est-ce que c'est pour les comptes de la province ou bien c'est pour les comptes des particuliers?
Merci,
puisque nous
Médard
ne voulons
Wabenga
plus assister à une deuxième réalisation.
Merci Médard Wabenga. Professeur Alphonse Maindo, également à vous, un conseil ou une série de conseils au gouverneur pour améliorer la gestion de la province orientale en guise de conclusion.
Merci beaucoup. Si j'ai une recommandation à faire à l'autorité provinciale, ce serait d'abord, si vous voulez, de lui demander de faire un véritable plan cohérent d'aménagement de la province, en essayant d'essayer de fixer des objectifs et de mettre des priorités par rapport à ça et par rapport aux moyens dont dispose la province et faire ça. Et il ne faut pas se disperser, se multiplier dans des actions de visibilité. Il y a pour moi des secteurs clés qui méritent vraiment une attention particulière pour la province, ce qui attirerait aussi des investisseurs. Un de ces secteurs, c'est d'abord l'énergie, l'électricité. On doit faire un effort considérable pour trouver des solutions à ça, pour attirer les investisseurs. Parce qu'il y a des gens qui voudraient bien venir investir en province orientale, mais ils ne peuvent pas venir parce qu'il manque d'électricité.
Merci. Ouais,
et deuxièmement, il faudrait aussi améliorer les conditions de sécurité pour les gens qui pourraient venir pour investir, pour les gens qui s'intéressent à ça.
Merci.
Et en dernier lieu, c'est le climat des affaires. Il faut favoriser cela par des mesures incitatives pour les hommes d'affaires. Merci.
Merci, professeur. Merci, monsieur le gouverneur, d'avoir participé à cette émission. Merci à Médard Wabenga. Également, merci à Pélé Kipela Mondo, Kéline Kouté, Guy Maté, Jean-Claude Nsiala qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter cette émission. Merci à nos collègues d'Okapi Kisangani pour leur contribution à la réussite de cette émission. Vous nous avez suivis. Merci de votre attention. Au revoir.